Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête.
Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Thierry Marx. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Alors, tu fais partie des chefs français les plus innovants. Notamment grâce à la cuisine moléculaire, on en parlera, que tu as défendu quand peu de gens y croyaient en France. Ton amour de la nourriture française se mêle à une passion pour l'Asie, qui s'illustre aussi par ta pratique des arts martiaux et des arts zen, comme le tai chi et le yoga et le judo. Tu mobilises ton amour de la cuisine et du sport pour favoriser l'inclusion sociale, l'insertion professionnelle et défendre les enjeux environnementaux qui te sont chers. Alors, tu connais le principe de l'émission, on est là pour aller explorer tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur ton parcours. Alors évidemment, on aura pas mal d'informations sur tout ce que tu as fait, et notamment Rebecca qui viendra nous illustrer et nous informer sur justement ce parcours-là pour qu'on puisse aller comprendre comment et pourquoi tu as fait les choses, ce que tu as ressenti à ce moment-là, comment un parcours de pionnier, eh bien, c'est pas forcément toujours tout simple, et comment on fait pour réussir à avancer. On va donc explorer ton esprit pionnier et se mettre à ta place, comprendre comment tu prends tes décisions. Alors c'est parti, ton enfance, tu es né en 59 dans le quartier de Ménilmontant à Belleville, à Paris, où tu as passé une partie de ta jeunesse. Et à 2 ans, tu traînes devant la boulangerie de Bernard Ganachot. Elle t'inspirait quoi, cette belle boutique ?
Elle m'inspirait beaucoup. D'abord, elle m'inspirait le bon, ça sentait bon. Et je me disais, si quelqu'un qui travaille avec ses mains peut avoir une réussite comme l'était celle de Bernard Ganachot, eh bien, pourquoi pas les métiers manuels, finalement. Ça a dû naître à cette époque-là, dans ma tête.
Donc on voit ici la belle boulangerie, parce qu'effectivement, c'est plus qu'une boulangerie habituelle. C'est vraiment un grand espace qui peut faire rêver.
Quelque chose, là. C'était une très jolie boulangerie. Au départ, ce n'était pas une très jolie boulangerie, c'est devenu une très jolie boulangerie. Et ce qu'on voit derrière, c'était ce qu'on appelait des cités ouvrières. Et ces bâtiments en briques rouges abritaient des ouvriers qualifiés, quelques contremaîtres. Mais c'était vraiment quelqu'un qui avait osé amener dans un quartier extrêmement populaire d'imposer une idée de la qualité et du luxe. Parce que le pain était beaucoup plus cher qu'ailleurs, mais il était exceptionnel. Et j'ai toujours défendu l'idée qu'il n'y avait pas de conflit entre le beau et l'utile, le bon et l'utile, parce que ça rendait les gens heureux, et qu'il n'y avait pas de conflit non plus entre le luxe, finalement, et des fois quelques complexités sociales. Le luxe est tiré tout le monde vers le haut. Je trouvais que cette boulangerie, elle symbolise ça quand même.
Ensuite, tes parents décident de partir s'installer à Bois-l'Abbé, à Champigny-sur-Marne. Et après le collège, on te refuse l'entrée dans l'école hôtelière. Et alors, tu t'orientes en mécanique, où tu ne restes que 3 mois. Est-ce que tu te souviens de tes pensées à cette période?
Oui,
ça fait beaucoup de choses d'un coup.
Je voudrais rectifier un petit peu. D'abord, on nous demande de quitter les petits appartements qu'on avait, qui n'étaient même pas des appartements dans les quartiers ouvriers du 20e, pour nous proposer les mêmes cités HLM dans des lieux où il n'y avait rien, il n'y avait que du béton. Et donc, c'était des appartements plus grands, mais à habitation sociale et à loyer modéré, certes, mais quand même, habitation sociale très discutable. Et ensuite, je choisis pas de faire de la mécanique générale. C'est-à-dire qu'on me dit, ben non, pour les gens comme vous, issus de ce quartier, c'est la mécanique générale, comme si c'était de fait, par défaut. Et ça, c'est les premières injonctions de l'État, finalement, pour contraindre quelqu'un qui semblerait rentrer dans une case et pas dans une autre. Donc c'est ça qui est discutable. Mais je n'ai pas choisi de faire de la mécanique générale, on m'a imposé de faire de la mécanique générale.
D'accord. Tu avais passé ton CAP de pâtissier.
Ouais.
Et c'est bien cela qui va dessiner ton destin, Rebecca.
En effet, en 1978, vous obtenez votre CAP pâtissier, chocolatier et glacier avant de vous engager dans l'armée. Et en rentrant de la guerre au Liban dans les années 80, vous revenez à la cuisine et faites vos armes au sein des brigades du pavillon Le Doyen aux côtés des chefs Deligne et Robuchon. Après un premier poste de chef à Sydney en Australie, vous intégrez le prestigieux hôtel du Cheval Blanc dans le sud de la France, le rendez-vous du tout Paris, à l'époque tenu par Régine. Et après, tout s'enchaîne. Dans les années 90, votre restaurant Le Roc en Val reçoit une étoile au guide Michelin. Le Cheval Blanc de Nîmes et les Relais et Châteaux dont vous êtes le chef également. Vous innovez et gravissez les échelons. Et dans les années 2010, vous êtes révélé au grand public grâce à Top Chef notamment. C'est aussi vos débuts au Mandarin Oriental de Paris et de vos restaurants sur mesure qui vous vaudront 2 étoiles de plus au guide Michelin. En 2018, vous prenez vos quartiers au premier étage de la Tour Eiffel avec Frédéric Anton en reprenant le Jules Verne. Et depuis, vous avez lancé 2 nouvelles marques et créé des formations pour former notamment des chefs, chefs d'entreprise engagés pour l'environnement.
Exactement.
C'est eh oui, clair. Tout cela est ton histoire. Et donc, Top Chef, Jules Verne, bon, et également, il y a Taïwan au début de
Taïwan, c'est le début. C'est ma grande chance a été de croiser la route de M. Claude Deligne, qui était le chef du Taïwan. Je me présente dans un restaurant qui s'appelle La Marée, il n'y a pas de poste pour moi. Mais la personne me dit, mais allez voir chez Taïwan, peut-être que. Je pose la question si on cherchait un commis. Le chef me dit oui. Vous arrivez d'où? J'avais déjeuné chez Bernard Loiseau, mais j'avais jamais travaillé chez Bernard. J'ai dit chez Bernard Loiseau. Et il m'a dit, bah, demain matin, vous pouvez
alors,
faire un essai.
C'était une subtilité de langage.
Oui, parce que, en fait, j'ai passé mon CAP de cuisinier en candidat libre à l'école Béliard. Et de cette école Béliard, finalement, je suis allé voir en province si je pouvais trouver un restaurant qui ne regarderait pas les déficits de mon CV. Et j'ai rencontré Bernard Loiseau, qui ne m'a pas embauché, mais qui m'a invité à déjeuner avec Georges Pralu. Et j'étais émerveillé par cet homme. C'est-à-dire qu'il était lumineux. Et du coup, il m'a tellement inspiré. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai dit, bah oui, je suis allé chez Bernard Loiseau. Et comme à l'époque, on vérifiait pas trop, il fallait faire ses preuves sur le terrain, bah, Monsieur Deligne m'a donné ma chance et il a continué à m'entourer tout au long de ma carrière, et Joël Robuchon aussi d'ailleurs, qui m'a toujours beaucoup aidé, y compris de me trouver cette relation entre le groupe Mandarin Oriental et moi.
Et donc Bernard Loiseau qu'on voit ici sur les photos. Alors on l'a entendu, ensuite tout s'accélère. En 88, tu reçois une première étoile Michelin avec ton restaurant Le Roc en Val. Et après seulement 1 an, tu as reçu ta première étoile.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là?
Ben, ça y est, je fais partie un peu du groupe, quoi. C'est-à-dire que j'arrivais de nulle part, j'avais pris beaucoup de risques pour en arriver là. Quand l'étoile tombe, finalement, vous recevez des dizaines de courriers, on recevait des fax de partout, et ça, j'avais l'impression de faire partie de la famille, quoi, de dire, ben, enfin, il va pouvoir, je vais pouvoir exister et puis me faire une place, finalement, dans cette galaxie des chefs étoilés qui est quand même un silo, était à l'époque un silo assez fermé.
Donc c'est un premier barreau d'une échelle que tu commences à gravir avec beaucoup de dynamisme. Mais tu décides de partir à ce moment-là en Asie, au Laos, en Thaïlande, au Japon. Qu'est-ce que tu allais chercher là-bas et est-ce que tu l'as trouvé?
D'abord, mon établissement économiquement où j'avais pris une étoile ne tenait pas vraiment la distance. J'avais beaucoup de compétences sûrement pour essayer d'avoir beaucoup de détermination au travail, mais j'avais probablement des lacunes en gestion et en management. Et quand on m'a proposé de partir en Asie, évidemment, j'ai immédiatement dit oui. Parce que d'abord, je ne voyais pas que l'Asie du Sud-Est. J'avais entrevu le Japon et la possibilité du Japon. Japon, judo, je revenais à mes premiers amours, cette passion un peu pour ce pays et l'unité de ce pays, finalement, qui me convenait bien. Et c'était l'opportunité de partir encore une fois.
Alors, tu rentres en France et en 2006, entre 2006 et 2008, tu reçois les titres de meilleur cuisinier de l'année, selon Goemio. A priori, ça veut dire que les gens aiment bien, du coup, venir dans tes restaurants. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Et donc, tu es aussi un cuisinier et un chef engagé pour l'environnement, on en a parlé, pour l'inclusion sociale, pour la réinsertion. En 2012, tu montes le projet Cuisine Mode d'Emploi. Quelle est ta motivation?
La motivation, elle est simple. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à montrer un petit peu, d'accéder un petit peu à la lumière de la notoriété, même si cette lumière est futile et elle peut s'arrêter d'un moment à l'autre, je me suis dit, je recevais beaucoup de courriers de gens qui venaient des mêmes quartiers que moi, que ce soit celui de Mille-Longtemps, mais surtout celui des Bois-l'Abbé, des Boulereaux, et moi aussi j'avais vécu ça, donc... Qu'est-ce que tu peux faire? Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour nous? Qu'est-ce qui a marché pour moi? Ce qui a marché, ça avait été le sport au travers du judo, parce que ça a été un cadre éducationnel qui m'a donné confiance en moi et en même temps qui m'a appris à faire pour apprendre, vu que je n'arrivais pas à apprendre pour faire. Et ensuite, l'artisanat était un moteur d'inclusion qui m'a vraiment aidé. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Donc on a décidé, d'ailleurs avec une rencontre avec Véronique Carillon, Philippe Carillon et Véronique Colucci, des Restos du Cœur, on s'est dit peut-être qu'on peut créer des centres de formation professionnelle pour des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, avec des accidents de parcours et des formations qui seraient totalement gratuites. La première école est née assez vite, à la date qui a été évoquée. Et puis ensuite, maintenant, on est à 10 écoles dans 10 quartiers politiques de la ville. Et aujourd'hui, c'est 92% de retour à l'emploi. On a fait la même chose avec des écoles du sport, etc. Donc, ça montre bien qu'on peut, avec un peu de notoriété, parce que effectivement, je me suis appuyé sur cette, d'abord sur l'envoyé spécial qu'il y avait eu sur mon parcours professionnel, et ensuite sur Top Chef. J'ai surfé sur la vague Top Chef. Et d'ailleurs, M6 m'avait beaucoup aidé, parce qu'à l'époque, je travaillais aussi avec l'administration pénitentiaire, et M6 intervenait très sérieusement, d'ailleurs, pour nous aider à monter nos centres. Donc, je trouve que ça avait une bonne démarche, et je continue à penser qu'une entreprise qui sera durable sera capable de mesurer sa croissance, bien évidemment, comme chaque entreprise, mais elle sera capable de mesurer son impact social et environnemental. Sinon, ce monde peut devenir quand même extrêmement dangereux, et il est déjà extrêmement dangereux.
Alors aujourd'hui, tu es directeur culinaire au Mandarin Oriental, ainsi que chez Honor, le restaurant gastronomique engagé, et tu es président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Ce mix entre cuisine et engagement, c'est un peu le fil directeur en fait, de ta vie, enfin en tout cas à partir d'un certain moment. Et donc c'est le moment pour nous d'entrer dans les coulisses de ces mondes. Alors tes passions, et notamment ta passion, c'est le monde de la gastronomie bien sûr. Et dans ce domaine, tu es considéré par beaucoup comme un précurseur. Le Times a même un jour titré que l'innovation culinaire n'est plus en France et elle est ailleurs. Et tu es connu en France pour être un précurseur de la cuisine moléculaire. Alors c'est quoi la cuisine moléculaire ?
La cuisine moléculaire, c'est rien que le mot nous dérange déjà entre nous là. Donc la cuisine moléculaire.
Disons qu'on se demande si ça se mange.
Mais c'est tout juste. Je pense que la cuisine moléculaire, c'est un outil de compréhension. Et grand bien nous en a pris, parce qu'à une époque, j'étais avec David Edwards, qui était un chercheur de Harvard. On avait créé le Food Lab, ce qui m'a permis de rencontrer Raphaël Aumont et d'écrire un livre qui s'appelait Planète Marx. On s'est rencontré avec Raphaël sur ce sujet. Et finalement, Sylvie Rotaillot nous a proposé de venir à Paris-Saclay. On a créé le premier laboratoire de recherche et développement qui est devenu une chaire universitaire aujourd'hui sur la cuisine du futur. Qu'est-ce que c'est que la gastronomie moléculaire ? C'est un, compréhension des produits que l'on transforme. Arrêter de croire aux blagues qui sont inopérantes dans la cuisine. Donc ça fait qu'à un moment donné, vous avez besoin d'une validation de la science pour voir si vous allez dans
c'est
le mur.
C'est de la chimie, c'est
pas.
De la physique,
c'est de la physique
des deux.
Plutôt que de la chimie, c'est de la physique ou chimie des produits. Donc c'est leur transformation. C'est inintéressant dans un restaurant. Parce que la science éclaire le sensible, éclaire l'humain, éclaire le fantasme. On préfère croire que la tarte aux pommes de la grand-mère est meilleure et que parce qu'on met du gros sel dans l'eau des œufs durs, on les épluchera mieux. Ça ne sert à rien, mais en tout cas, ça nous fait plaisir de le d'y croire. Alors, il ne faut pas changer ça. Donc, on a changé un peu notre modèle et on s'est dit, c'est quoi la gastronomie du futur ? Son impact social, son impact environnemental. Son impact social, avec quelle planète ? Quelle eau ? Quel bétail ? Quel produit ? Quel ingrédient ? Ça, c'était intéressant et c'est tout le travail de cette chaire universitaire et de la cuisine moléculaire. Ce qui, pour moi, en tant qu'artisan, m'a donné énormément de connaissances parce que c'est un cerveau collectif, ce CEFIC. On a bien sûr Raphaël Aumont, qui est le physico-chimiste, qui est responsable de cette chaire universitaire, mais nous avons d'autres universitaires et d'autres médecins qui travaillent sur cette alimentation du futur. Parce que si on ne réfléchit pas sur l'alimentation du futur, alors on ne réfléchit pas sur notre agriculture. Quel modèle architectural d'hôtel, quel modèle de restauration, parce que les ingrédients qui vont coûter les plus chers ne seront pas forcément des ingrédients à manger, ce sera des ingrédients de transformation. Le prix de l'électricité et le prix de l'eau seront déterminants pour voir quelle cuisine on aura dans le futur. Donc gastronomie moléculaire, c'est un outil de compréhension, c'est un outil scientifique au service du bon, du goût et de la population.
Alors, on va passer à une autre de tes passions.
Pas de souci.
Les arts martiaux.
Hey.
Alors, tu as justement cette passion-là, aussi pour les arts zen, le tai chi, yoga, méditation. Et c'est Rebecca qui va nous en parler.
Ouais. Et ça fait le lien avec le management, justement. 3 mois avant l'ouverture du mandarin oriental, vous avez surpris votre équipe, y compris votre directeur général. Vous les avez initiés au tai chi et au taiko, une façon d'amener toute l'équipe vers les fondements du judo, vers la voie de l'adaptabilité indispensable dans un palace où le niveau d'exigence est très élevé. Vous avez mis en place 2 cours, l'un de tai chi chuan, une gymnastique chinoise au mouvement lent, et l'autre, un cours de taiko, un art japonais du tambour qui nécessite une coordination corporelle parfaite. Ces méthodes inspirées des arts martiaux sont connues pour favoriser l'adaptabilité, la qualité cruciale dans un palace où les normes de qualité sont très élevées. Cela parce que pour vous, c'est un métier où il faut répondre à toutes les éventualités et à toutes les demandes, même les plus impossibles, sans jamais dire non, mais en guidant le client vers d'autres solutions.
Oui. Non, mais c'est très juste ce que vous venez d'évoquer. C'est pas tant de... D'abord, l'art martial, au sens large du terme, je pourrais le prendre de l'équitation jusqu'au yoga, en passant par le karaté, le judo, le jujitsu, ce que vous voulez, c'est surtout d'apprendre à mettre du temps entre l'émotion et l'action. Et bien souvent, nos vies sont régies par trop d'émotions et pas assez de temps de se poser. On veut être héroïque, or que bien souvent, il faudrait être stratégique. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, moi, dans ma propre vie, mais j'aime le partager parce que ça évite... pas mal d'écueils. Et je dis souvent à mes jeunes collaborateurs, anticipez beaucoup pour improviser tout le temps. Notre société, qui vont être une multitude de crises, et on le voit bien, l'actualité nous témoigne de ça, hélas, eh bien, il faut se préparer physiquement, intellectuellement, dans une verticalité, pour être vertical dans la rectitude de nos choix, mais avoir des fois des formes d'horizontalité pour être... dans cette verticalité, mais en même temps être solitaire dans notre verticalité et solidaire des mouvements qu'on doit pouvoir engager, et notamment dans l'associatif. Et le sport construit beaucoup là-dessus, cette capacité de rester prêt, disponible, zanshin, disent les Japonais, disponible, et bien parce qu'on a beaucoup anticipé, on s'est préparé physiquement et intellectuellement, donc on peut s'adapter à des situations de crise qui sont des fois inévitables. On a eu la crise sanitaire, mais vous voyez bien que la guerre en Europe, une guerre qui se déclenche au Moyen-Orient, enfin tout ça fragilise les relations internationales, fragilise le business, va créer des opportunités, mais aussi va créer des écueils. Il faut savoir vivre ces moments de crise, ces moments d'école du deuil, et en même temps de se dire... Bon, ben, j'y étais prêt, je peux l'affronter. Tant que je suis debout et que je suis vivant, j'avance.
C'est le moment pour nous de passer à la suite. Ouais. Alors, c'est l'heure d'aborder ton actualité, tes actualités. Et c'est Rebecca encore aux manettes qui va nous expliquer tout cela.
Encore une nouvelle corde à votre arc en tant que président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie. Vous avez conçu une plateforme, Mon CV Num, une solution numérique pour enrayer la crise de l'emploi dans l'hôtellerie-restauration. L'objectif, résoudre le grand défi du recrutement de collaborateurs, notamment dans l'hôtellerie-restauration, mais pas que. Mon CV Num est disponible en ligne. Vous l'avez conçu avec... Pôle emploi et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Il s'agit d'un point de rencontre entre chefs d'entreprise et demandeurs d'emploi. Elle s'adresse à tout le monde ayant un diplôme en hôtellerie-restauration ou non. Son utilisation est simple. Tous les demandeurs d'emploi peuvent générer leur CV sous la forme d'un QR code pour le rendre visible à tous les recruteurs qui, eux, présentent leurs établissements. Une solution qui répond aussi aux personnes sans diplôme qui ne se sentent pas éligibles alors qu'elles peuvent l'être.
C'est une manière de participer au futur de l'emploi pour toi, dans ton domaine.
Oui, d'abord, c'est une manière de participer au futur de l'emploi. C'est une manière de se dire, mais venez, vous avez des diplômes, tant mieux, c'est bien, vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous avez forcément des compétences que l'on sera capable d'évaluer avec vous et de vous faire monter dans ces compétences pour que vous réussissiez. Et puis de dire, la société a changé. C'est-à-dire qu'on a encore une partie de la société qui est dans le 20e siècle et une autre qui est dans le 21e. Donc, c'est-à-dire que la relation au travail a complètement évolué.
Eh bien, ce sera le mot de la fin sur cette partie-là. Nous allons transitionner directement sur la partie quiz. C'est le Quizella.
Le Quizella.
Bienvenue Thierry dans le Quizella, dont voici les règles. Je te pose plein de questions. Et tu dois répondre en quelques secondes.
D'accord.
C'est bon, tu es prêt, c'est parti. On est parti. Qui est pour toi le ou la chef qui t'inspire le plus ?
Le chef qui m'inspire le plus, c'est Jacques Maximin.
Tu préférerais manger chez Marx ou travailler chez Marx ?
Manger chez Marx.
Si tu ne devais manger qu'un seul plat pour le restant de tes jours, je sais, c'est pas facile, ce serait lequel ?
Très facile, c'est du pain.
Du pain.
Du pain, c'est le meilleur symbole de la gastronomie, de l'eau, de la farine et du talent.
Le plat que tout le monde devrait savoir faire ?
Des pâtes.
Ah, ça va, c'est bon, je sais faire. 3 étoiles Michelin ou 3 étoiles sur le maillot de France ?
3 étoiles Michelin.
Ah, les deux sont importants.
Oui, mais j'ai pas forcément un focus sur le football. Mais par contre, sur le rugby, oui, une étoile sur le maillot de l'équipe de France de rugby, ça me ferait plaisir. Mais quand même, l'étoile Michelin permettrait de continuer mes activités dans l'impact social, et ça me conviendrait bien.
Le pays qui t'a le plus inspiré en termes de cuisine ?
Japon.
La principale vertu du sport ?
Faire pour apprendre.
Et celle de la méditation ?
Mettre du temps entre l'émotion et l'action.
Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait jamais donné ?
Le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, c'est simple, c'est pas ton employeur qui protège ton emploi, c'est ta curiosité.
Et quel est le conseil que tu donnes, du coup, aux plus jeunes que tu rencontres à travers tes formations ?
C'est pas ton employeur qui protège ton emploi, c'est ta curiosité.
Très bien, au moins c'est cohérent. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains sur Terre étaient en train de regarder cette émission Les Pionniers, ce qui n'est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu voudrais leur adresser ?
Pensez à l'impact social et environnemental de ce que vous faites.
Alors merci Thierry de t'être prêté au Quizzella. Avant de se quitter, eh bien, nous allons écouter cette chanson que tu as choisie.
Boulevard Elvis.
C'est lui.
Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette chanson ?
Tout, Belleville, mon père, ma mère, mon grand-père, toutes les communautés qui étaient à Belleville, et les fortifs, parce qu'il n'y avait rien été construit sur les fortifs du Pré-Saint-Gervais, et c'était notre campagne à nous, la campagne à Paris, quoi. Et quand Teddy parle de ça, bah, il parle un peu de nos racines. Mais après, nos racines, on les a bougées. Ouais, est-ce qu'elles sont au Japon maintenant ? Est-ce qu'elles sont aux États-Unis chez mes enfants ? Est-ce qu'elles sont à Paris ? Mais j'ai encore un petit pincement au cœur quand je passe à Belleville et à Ménilmontant.
Nashville ou Belleville, d'Eddie Mitchell. Merci beaucoup, c'est la fin de ce tête-à-tête, Thierry.
Merci
de nous avoir partagé ton monde, tes émotions, tes réflexions, tes apprentissages. On en sait beaucoup plus sur toi et on en repart avec beaucoup de dynamisme et d'optimisme. Merci Thierry.
Merci.
Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.